à Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30. Bonsoir à tous, voici les titres. En Somalie, près de 30 morts après un triple attentat, la voiture piégée à Mogadiscio, remaniement ministériel au Tchad et l'entrée de deux nouveaux ministres à la sécurité et à la défense. Au Mali, trois chefs djihadistes apparaissent dans une vidéo qui appelle à poursuivre le djihad. Les leaders de l'opposition congolaise réunis à Genève pour choisir un candidat unique d'ici lundi. Madagascar, dans l'attente des résultats de la présidentielle, deux candidats dénoncent des irrégularités. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique. La Banque africaine de développement va consacrer 208 milliards pour 230 projets de développement sur le continent. Dans la page sportive, match retour ce soir de la finale de la Ligue des Champions. Mais tout d'abord, le journal. Au moins 25 personnes et 4 djihadistes tués dans l'explosion d'au moins 3 voitures piégées près d'un hôtel et d'un des sièges de la police dans le centre de Mogadiscio. La capitale somalienne, pourtant célébrée aujourd'hui après 41 ans, la reprise des services de la compagnie Ethiopian Airlines. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais portent la marque des djihadistes du groupe El Shabab. Par ailleurs, le ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu les présidents érythréens et somaliens dans le nord de l'Éthiopie. Monsieur Ahmed a déclaré « Nous allons vers une collaboration régionale en termes de développement économique pour garantir que la pauvreté soit combattue dans cette région. » Remaniement ministériel au Tchad, le président Idriss Déby a nommé deux nouveaux ministres à la sécurité et à la défense. Le point avec Raissa Girondin.
C'est un remaniement qui porte à 31 les membres du gouvernement tchadien contre 29 dans la précédente équipe. Il est marqué par le départ de quelques caciques, tels que l'ancien ministre de la Défense, Issa Djadala, qui laisse sa place au général Daoud Yahia, ambassadeur du Tchad en Centrafrique depuis 2016, et du départ de Youssouf Abbasala, qui était en charge du commerce et des mines. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité depuis 2014, Hamat Mahamat Bachir devient ministre du Commerce. Il est remplacé par Mahamat Abba Ali Salah, précédemment gouverneur de la région du lac Tchad. Une autre nouveauté, c'est que l'ancien directeur général de la presse présidentielle, Oumar Yahia, devient ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Les autres membres du gouvernement ont gardé leur portefeuille ou ont été permutés.
Au Mali, des djihadistes ont publié une série de vidéos dans lesquelles Amadou Koufa, présenté comme émir de la région de Massina, appelle les peuples de la sous-région au djihad contre la France et les Occidentaux. Notre correspondant au Mali, Kassine Traoré, nous en dit plus.
Ce sont des petites vidéos de 30 à 45 secondes montrant d'abord Amadou Koufa tout de blanc vêtu, bonnet tricolore avec une barbelette. Il le présente seul entre ses hommes, puis dans une voiture, ensuite assis au milieu de Yad Agali et Abou Al-Humam. Koufa appelle les peuples du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, Niger, Ghana, Nigeria et Cameroun au djihad, avec focalisation et accusation de la France et les Occidentaux. À travers les séries de vidéos, on dirait une intronisation de Amadou Koufa, commandant du front de Massina, qui intègre Jamaat al-Nourin islamique de Yad Agali. Koufa s'exprime en adressant des griefs locaux aux Occidentaux, plus particulièrement à la France, qui, à travers l'opération Barkhane, travaille au Mali. Et c'est d'ailleurs sa première apparition vidéo où il appelle ouvertement et nommément des peuples au djihad sous la bannière de Al-Qaïda contre la France. On remarque Yad Agali et Abou al-Humam, qui ne s'expriment pas, ont réussi à se réunir avec Koufa malgré la pression des militaires au Sahel. La vidéo se termine par un speech en langue peul où Koufa, dans un refrain, parle de mécréants et de combat contre les Occidentaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
5 des 7 ténors de l'opposition congolaise sont arrivés ce vendredi à Genève pour tenter de désigner un candidat commun à la présidentielle de décembre et faire taire les dissensions à moins de 2 mois d'un scrutin sous tension en République démocratique du Congo. Les précisions de Nani Talani.
L'opposition désignera son candidat unique au plus tard dimanche. Son choix portera sur l'un des 4 candidats, Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Martin Fayulu. Les attentes sont fortes auprès de la population. Comme groupe, nous ne pourrons prétendre à la victoire à la présidentielle qu'en étant ensemble, a déclaré M. Matungulu. le 26 octobre en Afrique du Sud, les 7 ténors de l'opposition avaient promis de désigner ce candidat au plus tard le 15 novembre. Moïse Katumbi, opposant en exil, et Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, n'ont pas été autorisés à participer, mais ils seront présents à la réunion de Genève, selon Adolphe Mouzito, ancien premier ministre passé à l'opposition, exclu de la course à la présidence. Il y a 21 candidats à la succession du président Joseph Kabila dans un scrutin à un seul tour.
En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont appelé les groupes armés à ne pas entraver les efforts de lutte contre l'épidémie Ebola qui touche l'est instable du pays depuis août. Au total, 312 cas de fièvre hémorragique ont été signalés, dont 277 confirmés et 37 probables selon le dernier bilan des autorités congolaises qui font état de 191 décès. L'Aube, un journal gabonais qui a publié lundi un article sur la santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis plus de 2 semaines en Arabie Saoudite, a été suspendu pour 3 mois par la haute autorité de la communication. Ce journal avait titré « Le Gabon en très dangereux pilotage automatique ». La HAC reproche à ce journal d'avoir demandé au premier ministre gabonais d'investir Lucie Mboussou, la présidente du Sénat, pour assurer la présidence intérimaire en cas de vacance du pouvoir. Le président gabonais est toujours attendu à Paris le 11 novembre à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement zambien a accusé l'opposition d'alimenter les attaques xénophobes contre les ressortissants chinois après une série de violences visant la communauté chinoise et ses entreprises. Cette intervention a suivi des émeutes sporadiques qui se sont produites dans 7 semaines dans les villes de Bushi et Kawana. Des travailleurs avaient protesté après les rumeurs indiquant qu'une compagnie forestière aurait été vendue à des acheteurs chinois. À Madagascar, les observateurs appellent les candidats à la présidentielle à la modération et à utiliser uniquement les voies légales pour contester les résultats. Un appel qui fait suite aux accusations d'irrégularité formulées par 2 candidats, Abdourahmane Dia.
Ce vendredi, le comptage des voix se poursuivait au compte-gouttes dans la grande île, selon les résultats qui ne portent que sur 1350 des quelques 25 000 bureaux de vote. La course se joue entre 2 anciens présidents, Ange Rajoel et Marc Ravalomanan. R. Rajonarimampian, un autre ex-chef d'État, est très loin derrière. Hier, il a dénoncé de nombreuses irrégularités et a indiqué qu'il les transmettrait à la CENI. Cependant, il a prévenu qu'il ne laisserait pas la population se voir dérober son vote. De son côté, Marc Ravalomanan a appelé à un rassemblement de ses partisans demain à Antananarivo pour les remercier de leur soutien. Il a affirmé que ce rassemblement doit aussi être l'occasion de recenser des irrégularités et de faire l'inventaire des électeurs qui ont été omis des listes électorales. De quoi soulever des inquiétudes à Madagascar. Le pays est régulièrement déstabilisé par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance en 1960.
Les États-Unis se disent très inquiets des violations des droits de l'homme en Tanzanie et de l'atmosphère de violence, intimidation et discrimination imputée au gouvernement de Dar es Salaam. La détérioration du climat politique dans ce pays d'Afrique de l'Est alarme depuis plusieurs mois les États-Unis et l'Union européenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement de Donald Trump a annoncé vouloir interdire aux migrants entrés illégalement sur le territoire américain de ne pas déposer une demande d'asile. C'est la dernière décision du président pour lutter contre l'immigration dont il avait fait son cheval de bataille. Par ailleurs, le président Donald Trump est attendu en France ce week-end avec des dizaines d'autres chefs d'État pour assister aux cérémonies marquant le centenaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. 5 stèles seront inaugurées demain en France à la mémoire de 949 tirailleurs sénégalais morts pour la France à la suite de maladies après avoir séjourné dans un camp d'hiver dans le sud-ouest du pays pendant la Première Guerre mondiale. Selon les historiens, ces installations auraient accueilli de 1916 à 1917 entre 40 000 et 60 000 tirailleurs sénégalais placés sous l'autorité de l'armée française et originaires de toute l'Afrique occidentale. Plusieurs dizaines d'ONG se sont réunies vendredi pour dénoncer un plan de rapatriement en Birmanie annoncé pour la semaine prochaine, rapatriement de musulmans Rohingyas ayant fui ce que l'ONU dénonce comme un génocide. Les 10 ans terrifiés, les 42 ONG signataires de la lettre ouverte publiée vendredi s'inquiètent, jugeant les conditions de sécurité non réunies et un retour dangereux dans ce pays marqué par un virulent nationalisme bouddhiste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire bénéficie d'un prêt de 42 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural. Le projet, dont l'exécution va durer 3 ans, de 2019 à 2021, porte sur l'extension des réseaux électriques en moyenne tension et la réalisation de branchements dans 3 districts du Nord, où le taux d'accès à l'électricité est inférieur à la moyenne nationale, estimée à 60%. Il s'agit des districts des Savanes, du Yoruba et du Zonzon, pour une population estimée à 259 486 habitants. Le Zimbabwe veut réduire son déficit budgétaire à 4% du produit intérieur brut. Pour ce faire, Harare compte réduire les dépenses de l'État, les primes annuelles versées aux agents de la fonction publique, les voyages à l'étranger des hauts cadres. Le gouvernement envisage également de vendre une partie de ses actions détenues dans des entreprises bancaires, minières et de télécommunications. Et puis au Cameroun, l'Agence française de développement vient d'accorder un prêt de 150 millions d'euros à Natigal Hydropower Company pour la construction de la centrale hydroélectrique de 400 MW. Elle permettra de fournir près de 30% de la production d'électricité du pays. Le projet comprend la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance pendant 35 ans d'un barrage.
À présent, notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Ekia.
En football, match retour ce soir de la finale de la Ligue des Champions de la CAF.
Oui, battu par Al Ahly lors de la finale aller 3-1, l'Espérance Tunis va tenter ce vendredi à Rades de remporter la Ligue des Champions. Les espérantistes pourront compter ce soir sur un stade de Rades qui sera tout acquis à leur cause. Mais Al Ahly, détenteur du record de victoires dans la compétition, cherche à ajouter une 9e C1 à sa vitrine des trophées, d'autant que le dernier remonte déjà à 2013. L'Espérance est, elle, en quête d'une 3e Ligue des Champions, après l'avoir remporté en 1994 et 2011.
Et cette rencontre est placée sous haute sécurité.
Oui, la police tunisienne a déployé plus de 6000 hommes, des drones et brigades canines vendredi pour assurer la sécurité de cette finale qui se joue dans une atmosphère tendue. La police attend 50 à 55 000 spectateurs au stade de Rades. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Sûreté nationale, Walid Ben Hikma.
Football toujours, cette fois en France, le PSG a-t-il pratiqué la discrimination ethnique?
Oui, c'est en tout cas ce que révèlent Mediapart et plusieurs médias européens, s'appuyant sur des documents issus de la deuxième vague de ce qu'on appelle le Football Leaks de 2013 au printemps 2018. Une cellule de recrutement du Paris Saint-Germain a mentionné des critères ethniques dans ses fiches d'évaluation de jeunes joueurs.
En NBA, Golden State a passé une bien mauvaise soirée jeudi.
Oui, le double champion NBA en titre, surclassé par Milwaukee 134 à 111, a concédé sa première défaite à domicile de la saison et a vu son meneur de jeu, Stephen Curry, quitter prématurément ses coéquipiers sur blessure. Les Warriors sont donc tombés de haut. Alors qu'ils avaient remporté leurs 8 précédents matchs, ils n'ont soutenu la comparaison avec le Bucks que pendant la première moitié de la rencontre.
Merci Bagassi.
Oh,
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'opposition togolaise ne participera pas aux élections législatives annoncées par le gouvernement pour le 20 décembre. Son leader, Jean-Pierre Fabre, estime que la CEDEAO veut se servir de la tenue du scrutin pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible et transparente, dit-il. Il a réagi donc à cette annonce du gouvernement togolais au micro de Irénée Herban-Ongbo.
Je crois que le gouvernement est dans une logique de provocation parce qu'il sait très bien que les élections normales, crédibles, transparentes, démocratiques ne peuvent pas avoir lieu là maintenant le 20 décembre. Je ne comprends pas comment on peut convoquer le corps électoral alors que le fichier actuel dont nous contestons la mise en place, parce que nous n'avons pas été associés à l'opération, que ce fichier-là, il n'est même pas encore dépouillé de tous les doublons, de tous les problèmes. Il est en train d'être audité. Le fichier n'est pas encore mis en place.
Monsieur Fabre, ce sont les médiateurs, les États de la sous-région qui ont suggéré à ce que les élections se tiennent en décembre.
Ces chefs d'État qui ont suggéré cette date, ils organisent des élections chez eux. Ils savent très bien que si on veut organiser des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, crédibles, on exécute d'abord les tâches nécessaires.
L'opposition que vous représentez n'a pas voulu siéger à la commission électorale. Est-ce que la politique de la
chaîne
paye-t-elle dans ce cas précis ?
Il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Nous avons fourni notre liste dans les délais. Et on a attendu 5 semaines parce qu'il y avait un blocage qui était dû au fait qu'un parti politique qui a signé un accord de partage de pouvoir avec le régime en place revendique une place alors qu'il ne fait pas partie du dialogue.
Alors, allez-vous participer au scrutin ou
non, pas du tout. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens.
Quelles seront alors vos conditions pour participer au scrutin ?
Il faut que tout soit clair. Parce que, excusez-moi monsieur, mais nous ne sommes pas dans le cadre d'élections ordinaires. Il s'agit d'une élection dont la CEDEAO veut user pour régler la crise togolaise.
Ne craignez-vous pas que les absents pourraient avoir tort ici éventuellement?
C'est ce qu'on nous a toujours dit depuis des années, depuis des décennies. Et c'est pour ça que nous participons à des élections qui n'en valent pas la peine. Je pense que si nous disons qu'il y a des conditions à régler pour que nous puissions participer à ces élections, il faut qu'au moins pour une fois, on nous écoute.
Jean-Pierre Fabre, joint à Lomé par Irénée Herman-Ongbo.
À votre avis, ce vendredi à 18h PU sur VOA Afrique, Jacques Aristide avec vous. En Zambie, le gouvernement accuse l'opposition d'alimenter les attaques xénophobes contre les ressortissants chinois après une série de violences visant la communauté chinoise et ses entreprises. Y a-t-il un sentiment anti-chinois qui prend de l'ampleur et pourquoi? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001-202-205-2633.
À Bukavu, en République démocratique du Congo, les participants au forum interprovincial devant produire un projet de document sur la politique foncière nationale en République démocratique du Congo viennent d'opter pour la révision de la loi foncière de juillet 1973 en vue d'améliorer la réglementation foncière. Le point avec notre correspondant sur place, Ernest Mouhérou.
Pendant 4 jours, plus de 250 délégués venus de 26 provinces de la RDC ont réfléchi sur les forces et faiblesses de la loi foncière de 1973. C'était avant de relever les problèmes fonciers majeurs qui découlent de sa mise en application sur l'ensemble des territoires congolais. Guy Mouléa vient de Lubumbashi, où il est conseiller du ministre des Mines et Affaires foncières dans la province du Haut-Katanga.
Il fallait un diagnostic de l'administration foncière. Au Katanga, par exemple, nous avons un grand problème avec la superposition des titres miniers sur les titres fonciers.
D'autres problèmes sont aussi vécus à Kinshasa, rapporte Maître André-Marie Kito de la Société civile de Kinshasa.
Il y a des services fonciers qui sont à Kinshasa et qui attribuent des portions de terre à 2, 3 ou 4 personnes à la fois. Et vous allez retrouver 4 personnes, chacune avec un contrat.
Venancy Bissimois du Sud Kivu déplore l'accaparement des terres par le plus nantis.
Nous sommes là avec une élite qui a pris la terre et qui ne l'exploite pas, à côté des paysans qui n'ont même pas un hectare pour vivre. Les terres de milieu rural, ce sont plus les terres qui posent problème parce qu'ils sont sous le régime coutumier. En même temps, les soumets à un régime des droits.
Pour le ministre national des Affaires foncières, Lumea Dumalegi, ce forum a permis de lever des options fondamentales en vue d'améliorer la gouvernance foncière.
Nous ne voulons pas qu'un opérateur économique arrive, il chasse la population locale qui ne se retrouve pas et ça amène les conflits. Nous avons aussi planché sur comment le foncier va jouer un rôle capital dans le renflouement des caisses de l'État.
Le délégué de la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, le professeur Moïse Tufende, salue l'option prise en ce qui concerne la révision de la politique des règlements des litiges fonciers.
Parmi les mesures prises, il sera créé une inspection foncière avant d'amener litige devant les cours et tribunaux. Les parties prenantes en litige seront obligées de passer d'abord par l'inspection foncière avant de soumettre leur litige devant les cours et tribunaux. Il y a aussi des innovations, par exemple le renforcement du genre dans l'octroi des titres fonciers.
Les chefs coutumiers et peuples autochtones se disent satisfaits. Sa Majesté Mfumo Difima est secrétaire général des autorités traditionnelles du Congo.
Ce forum vient de nous donner une occasion, une fois pour toutes, de certifier et cartographier nos terres, qu'il n'y ait plus de sens dans ce pays pour des problèmes de terre.
Reste à savoir si la volonté politique va suivre. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Mauritanie, le blogueur Mohamed Cheikh Ould Mtehir est toujours détenu dans un lieu secret un an après l'annulation de sa condamnation par un tribunal de Noapidou. Sa santé physique et mentale se dégrade. Des organisations de défense de droits humains ont décidé de faire campagne pour obliger le gouvernement de Nouakchott à le libérer. Nani Talani a joint Kiné Fatine Diop, chargée des campagnes pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Le ministre de la Justice, lors d'une interview, avait reconnu qu'il était en détention quelque part en Mauritanie parce qu'il est détenu au secret. Et en mai, finalement, devant le comité de la discrimination raciale, le commissaire aux droits humains a dit que Mohamed Mohaïtir est en détention pour des raisons de sécurité. Pour nous, c'est vraiment inquiétant. On ne garde pas une personne qui a été libérée par la Cour et qui a des problèmes de santé en détention pour sa sécurité. Je pense que si les autorités mauritaniennes veulent garantir la sécurité d'un citoyen, ils ont tout le mécanisme pour le faire. Il doit vraiment libérer Mohaïtir parce que le garder, c'est vraiment un mépris pour une décision de justice. Je pense qu'il y a des moyens de le mettre en sécurité s'il le faut hors du pays. C'est la responsabilité de l'État. Il n'a absolument rien fait. Hein. Il a juste critiqué dans un article les personnes qui utilisent la religion. Il s'est repenti à plusieurs reprises. Donc je pense que le garder en prison, un état de santé qui est assez critique, risque d'avoir plus fortes conséquences que de le sortir.
Ses avocats ne sont pas autorisés à le voir. Est-ce qu'on a des preuves qu'il est toujours en vie?
Sa famille a eu quelques visites au cours de l'année, donc ils peuvent nous confirmer qu'il est toujours vivant. Ses avocats ont dit à plusieurs reprises depuis un an, ils demandent un droit de visite. Ils n'ont jamais obtenu de réponse des autorités. Nous savons qu'il est vivant et nous savons qu'il est dans un état de santé assez préoccupant. Et vraiment, aujourd'hui, toutes les organisations, nous sommes 32 aujourd'hui, à demander à ce qu'il soit libéré, mais que surtout l'État garantisse sa sécurité lors de sa sortie.
Il ne peut pas voir un médecin.
Il n'a pas d'accès au médecin. Il a besoin de faire des analyses plus approfondies pour pouvoir avoir un traitement. Il n'a pas obtenu ceci depuis un an. Il est en détention seul, pas dans une prison. C'est vraiment inquiétant et pour nous, tenir un bloc, c'est vraiment pas un crime. Il ne mérite absolument pas cette détention.
Quels sont les moyens de pression que vous avez à votre niveau pour exiger sa libération?
Alors, pendant longtemps, beaucoup d'organisations ont joué sur la diplomatie en parlant du cas de Mouraïti en bilatéral avec les autorités. Mais je pense que, vu la gravité de la situation, nous avons décidé de faire une campagne sur plusieurs mois pour demander partout dans le monde la libération de Mouraïti. Donc, demain, il y aura une manifestation devant l'ambassade de la Mauritanie aux États-Unis, à Washington. Nous espérons multiplier ce type d'action partout dans le monde pour que Mouraïti, qui est vraiment un cas de la répression des défenseurs des droits humains qui militent contre la discrimination en Mauritanie, que vraiment ce cas soit entendu par tout le monde et que les autorités se rendent compte qu'il ne sert à rien de maintenir ce blogueur en détention.
Est-ce que la situation de Mohamed Cheikh Ould est unique en Mauritanie ou il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui?
Malheureusement, la situation de Mohamed Cheikh n'est pas une exception en Mauritanie. L'International a publié un rapport en mars de cette année. Dans ce rapport, nous avons pu documenter 168 cas d'activistes qui militent contre l'esclavage et la discrimination en Mauritanie qui ont été arrêtés et parfois torturés. Beaucoup d'organisations travaillent sur ces questions sensibles, n'arrivent pas à s'enregistrer et donc opérer légalement. Et à n'importe quel moment, ils peuvent être arrêtés pour avoir participé ou être membre d'une organisation non reconnue. Donc il y a cette épée Damoclès qui est sur la tête de beaucoup de militants mauritaniens. Et surtout, il y a une campagne d'intimidation et de dénigrement orchestrée par les autorités, mais parfois par des groupes religieux, pour critiquer les défenseurs des droits humains, alors qu'ils font un travail vraiment incroyable en Mauritanie pour faire mieux connaître les droits humains et pour défendre l'État des victimes d'esclavage et de discrimination.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président Donald Trump va ce week-end en France avec des dizaines d'autres chefs d'État pour assister aux cérémonies marquant le centenaire de l'amnistie qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Les relations entre les États-Unis et ses alliés sont assez tendues et la France a d'ailleurs prévenu que le climat géopolitique actuel rappelle la situation entre les deux guerres. Un reportage d'Henri Riguel, le récit est de Gaby Dorsine.
En faisant le tour des champs de bataille cette semaine, le président français Emmanuel Macron a prévenu sur les menaces qui pèsent sur l'Europe, qui, selon lui, doit créer sa propre armée.
Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique.
Pour les autorités françaises, les relations avec les États-Unis ne seront pas affectées par les résultats des élections de mi-mandat où les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants. Le président américain sera reçu demain samedi par son homologue français et on ne sait toujours pas si M. Trump va rencontrer Vladimir Poutine, son homologue russe, en marge des cérémonies. Un peu plus tard, M. Trump visitera le Bois Bello, qui a été le théâtre de l'une des batailles les plus féroces menées par les troupes américaines durant la Première Guerre. Les violents combats se sont déroulés au corps à corps et après trois semaines, les troupes américaines ont conquis le Bois Bello le 26 juillet 1918. Jean-Michel Steg, historien.
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire.
Ils étaient confrontés à un intense feu ennemi, mais au lieu de se cacher, au lieu de battre en retraite comme c'était l'habitude des troupes à l'époque, en tendant les barrages d'artillerie pour les soulager, ils ont attaqué.
À la fin de la guerre, 116 000 soldats américains sont tombés en défendant l'Europe. Un siècle plus tard, les relations transatlantiques sont tendues, mais l'alliance a survécu. Bruce Malone Jr., directeur du musée Argonne, un cimetière militaire américain.
Les relations entre ces powers. They're not always easy, and there are reasons for that.
Les relations entre ces puissances n'ont pas été toujours faciles. Il y a des raisons pour cela. Mais lorsque vous venez ici, où les habitants de ces villages se souviennent encore, il y a un très grand respect pour le soldat américain.
Le musée Romagne 1418, juste à côté, dépeint la vie des soldats sur la ligne de front avec des milliers d'objets retrouvés sur les champs de bataille. Jean-Paul De Vries, conservateur du musée Romagne 1418. Il dit que ce qu'il essaie de montrer aux visiteurs de ce musée, si l'on voit ces casques, c'est la même chose, c'est toujours des vies humaines. 40 millions de personnes sont mortes durant ce conflit. Elles seront commémorées dimanche, le jour de l'armistice, pendant une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris, avec des dizaines de leaders du monde. Puis le président Trump va participer à une cérémonie séparée dans un cimetière américain.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Cheikh Tiro, à la console, Kirsten Biden, et Kabadou à la présentation. On reste connecté sur Facebook et votre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme en notre compagnie.
VOA Afrique, les infos.